Le camion poubelle est prêt pour aller vider toutes les poubelles de la ville. Allons-y les enfants, suivons-le.
What's your message to world leaders today?
How dare you?
Bonjour et bienvenue dans Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, Zoom Écologie présenté par Culture Poub. Ce jeudi n'est pas notre jeudi habituel, ni notre horaire habituel, mais vous vous en doutez, la grille des programmes de FPP a été bouleversée par l'épidémie et les mesures étatiques d'exception prises ce lundi. Dans ce contexte, la radio est fermée, mais pas l'antenne. Nous continuons à vous parler, plus que jamais. Et dans le cas de Culture Poub, nous vous parlons depuis la maison, où nous réalisons des interviews par téléphone. La première chose que nous avons souhaité faire, c'était prendre des nouvelles des travailleurs des déchets. En janvier, ici, nous leur avions consacré une émission, où on avait abordé leur lutte contre la réforme des retraites et la privatisation de leur secteur, une lutte toujours en cours. Aujourd'hui, nous constatons que les métiers de la propreté, ripper, chauffeur, balayeur, agent d'incinération, ces métiers sont en première ligne, très exposés aux risques sanitaires liés à l'épidémie de coronavirus. Directement au contact de matières dangereuses, ils ne sont pourtant pas les plus protégés. C'est pourquoi nous avons interviewé deux professionnels de ce secteur, qu'ils travaillent dans le privé ou dans le public. Dominique, ripper chez Veolia, et Eduardo, balayeur à la ville de Paris. Tous deux nous racontent le manque de protection et de dialogue, le sentiment d'être laissé pour compte, et la façon dont des compagnies privées, ou des politiques néolibérales, récupèrent l'argumentaire du service public. Bonjour Dominique, vous travaillez pour Veolia, c'est ça?
Oui, bonjour, oui, effectivement, oui.
Et donc, est-ce que vous êtes encore au travail ces jours-ci, ou est-ce que vous avez cessé l'activité?
Non, toujours au travail, jusqu'à quand même ce matin.
Vous êtes chauffeur ou vous êtes ripper?
Je suis ripper.
D'accord, donc vous travaillez toujours, vous n'avez pas été mise à pied ou en chômage partiel ou en confinement?
Non, du tout. Apparemment, du fait qu'on fait partie d'un service, public, de service public, donc on nous a sollicité en restant en activité.
Et pourtant, vous travaillez pour un acteur privé, Veolia.
Exactement.
Et ils vous ont dit c'est un service public?
Et voilà. Voilà ce que mon Rex m'a répondu.
D'accord. Et vos conditions de travail ont-elles changé dans ces conditions exceptionnelles? Est-ce que vous avez eu des mesures de sécurité ou de propreté de particulières?
Alors, on nous a dit de bien nous nettoyer les mains, de rester à un mètre, des protocoles, un protocole de, disons, de parlement, quoi. Mais en concret... du tout, on n'a pas de gel, on n'a pas de masque et pas de gants. À savoir que nous sommes, quand nous partons sur nos lieux de collecte, à savoir on est dans un camion, on est confiné à trois personnes dedans, donc potentiellement on ne sait pas si on a le coronavirus ou même on ne le sait pas. Et le problème étant que... on est proche, quoi. Le souci, c'est ça, c'est qu'on est proche et on ne sait pas, on n'a pas de gants, on n'a pas de protection. Et puis ça fait peur avec ce qui se passe à l'heure actuelle.
Bien sûr. En plus, ils vous disent de vous laver les mains, mais vous les lavez où, les mains, pendant une collecte?
Déjà, en temps normal, au café, quand on s'arrête pour faire notre pause. Mais maintenant que les cafés, brasseries sont fermés, on n'a aucun endroit pour pouvoir se laver les mains, se désinfecter. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai mon Rex qui nous a dit qu'il y avait des gels hydroalcooliques. Il n'y avait que 14 petits flacons de 100 ml pour à peu près 130 salariés.
Ah oui, c'est pas grand-chose.
Et par contre, on nous a bien stipulé que on devait les prendre, on devait les utiliser et après on devait les ramener à l'agence.
Vous les rapportez?
Exactement.
D'accord. Pour quelqu'un d'autre, quoi. Vous passez les gels entre vous?
Voilà. En fait, c'est parce que comme il n'y en a pas, donc ils les gardent. ils les réquisitionnent.
Donc ils sont pas du tout équipés en fait.
Voilà, c'est juste pour l'usage de la collecte. Et à savoir qu'il y a certains camions qui sont réutilisés l'après-midi. Donc du coup, les camions ne sont pas nettoyés. Ils sont pas désinfectés. Pareil pour les locaux. Je veux dire, il n'y a aucune procédure hygiène qui est mise en place pour ça, quoi. C'est allez-y avec votre courage et advienne que pourra, quoi.
Vous avez l'impression d'être envoyé au front, quoi, en casse-pipe, là, pour le coup, sans protection particulière, alors que votre métier est déjà suffisamment à risque.
Ben, c'est ça, en fait. Le souci dans tout ça, c'est que on est conscient de la gravité de la situation. On est conscient que voilà, s'il y a une pénibilité pour les gens, pour la nation, mais je veux dire, on voudrait un minimum de protection, au moins avoir des gants, de pouvoir, parce qu'on a des familles, derrière, on a des gens autour de nous. Donc du coup, le fait de ne pas avoir de protection, de ne pas avoir de gants, de pas avoir de masque, de gel, oui, on n'est pas tranquille, on a peur par rapport à cette situation, parce que on voit que tout autour, bah, tout le monde est confiné. Tout le monde reste chez soi. Nous, on part au travail et on n'est pas bien. Parce qu'après, on ne sait pas qu'est-ce que potentiellement on peut ramener à la maison.
Bien sûr. Et est-ce que vous avez pu exercer votre droit de retrait dans ces conditions extrêmes?
Alors, ce matin, on a fait donc un droit de retrait. On nous a donné un listing à écrire pour mettre les noms, les prénoms. On nous a apporté un cahier pour la déclaration de mise en danger. Mais par exemple, ce matin, notre Rex a dit directement, moi je ne vous redonne pas d'attestation vu que vous ne prenez pas le service.
D'accord. Et
donc c'est un petit peu du chantage.
Oui, il vous expose encore plus en quelque sorte.
Et par contre, quand on leur dit... et qu'on leur expose nos cas, nos peurs et nos craintes et nos revendications, bah, du coup, ils essaient de dédramatiser en disant « mais c'est rien, la priorité, les masques, c'est pour les médecins, les chirurgiens, pour les dentistes, les médecins généralistes. » Après, c'est vrai, je le conçois, mais dès l'instant où est-ce qu'on demande à un service de continuer, moi, j'estime que c'est avec de bonnes conditions.
Bien sûr, là, ils dédramatisent complètement alors que vous êtes extrêmement exposé puisque vous manipulez les ordures des gens, ce que les gens ont touché, ce qui est sale chez les gens, qui est rejeté.
Bon, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on nous a apporté ce matin? Bon, ben, c'est rien, vous inquiétez pas. De toute façon, ça reste pas sur les sacs, ça reste pas sur les objets. Et puis voilà, allez-y, allez travailler. Donc, après, quand vous voyez un peu cette situation-là, vous êtes pas tranquille, vous partez au travail, vous êtes pas tranquille.
Bien sûr, d'autant plus que vous faites déjà un métier qui est à risque. Est-ce que ça se passe en dehors de la crise du coronavirus? Est-ce que ça se passe souvent comme ça quand vous essayez de négocier quelque chose avec votre employeur en tant que travailleur du déchet? Est-ce que vous êtes souvent confronté à cette dédramatisation, vous qui avez un métier si pénible, vous qui voyez l'âge de la retraite s'éloigner en ce moment? Ça vous rappelle des souvenirs dans les négociations, ce genre d'attitude?
Ben, je vous dis sincèrement, je connais très peu de gens, je connais très peu de personnes qui, après la retraite, sont encore en vie. Je vous le dis sincèrement. C'est un métier qui, physiquement, épuise l'être humain. Et les conditions de travail, certes, se sont améliorées depuis des années, mais au fil des années, mais la dureté du travail, et on est sujet aussi au temps dehors, le froid, la pluie, ça joue sur les os, surtout. Et oui, il y a des choses où est-ce qu'on est, j'ai l'impression qu'on est obligé de pleurer à la direction pour avoir des conditions de travail décentes.
Je suis très étonnée par le fait que vous, qui êtes quand même exposé les premiers sur cette question-là, l'hygiène, la propreté, vous soyez si peu protégé, justement, alors que vous protégez la ville, les habitants, des risques liés aux déchets et à la prolifération des ordures.
C'est ça, on n'a pas autant de protection qu'on aimerait, qu'on souhaiterait, et on le déplore, et même que ça soit dans les locaux ne sont pas assez, ils sont pas assez nettoyés, les camions c'est pareil, les camions, certes il y a un lavage qui est fait, mais à l'heure actuelle, il faudrait que ça soit deux fois plus, il faudrait qu'il y ait plus d'investissement je veux dire, de moyens pour l'hygiène et pour combattre ce virus, parce que ça nous touche tous. Ça nous touche tous. Comme disait le président Macron, on a tous un effort à jouer là-dessus, sur cette... sur cette cause. Donc je pense qu'après c'est à des sociétés comme Veolia, à toutes ces grosses sociétés, de pouvoir faire ce qu'il faut pour donner de bonnes conditions de travail et qu'il y ait une pérennité pour tous, pour tous ces salariés.
Justement, Macron, il a dit à la télé, il a dit à la radio, on a besoin du service public, il y a des choses qui doivent rester communes. Mais évidemment, il faisait référence sans doute à l'hôpital. Voilà. Dont il a
et
détruit
après,
une bonne part.
Certains en ont profité de ces mots-là pour après inciter les autres à aller travailler, continuer le travail.
Vous avez l'impression que c'est ça qui se passe pour vous, qu'on utilise cet argument du service public alors que vous travaillez dans le privé pour vous envoyer en quelque sorte au casse-pipe?
Moi j'ai l'impression, après c'est mon avis personnel, mais... J'ai conscience que voilà, il y a quand même un service à faire, il y a quand même quelque chose à faire, parce qu'on peut pas laisser ça dehors, et sinon ça prolifère, ça peut continuer au niveau des virus et au niveau de la prolifération des microbes. Mais après c'est je trouve que les conditions sont mal faites. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'anomalies dans tout ça, et j'ai l'impression oui on est laissé pour compte, et quand on demande, on a l'impression de clémenter, en fait, de clémenter ce qui est normalement la logique. C'est ça qui est vraiment attristant et blasant là-dedans, c'est que on est obligé de pleurer pour avoir des conditions de travail décentes. C'est ça qui est regrettable.
Dans ce contexte où les restaurants, les commerces sont fermés, où les gens sont confinés chez eux, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir plus de déchets, moins de déchets, que ça va être plus difficile à traiter pour vos collègues qui vont continuer à sortir?
Ah oui, oui. Oui, je vous dis sincèrement, j'ai eu l'occasion de le voir. Le fait que les gens restent chez eux, qui restent confinés, après ça peut jouer sur un stress, mais... En logique des choses, généralement les gens mangent et puis après c'est ils mangent un peu plus davantage. Mais je veux dire, nous on le ressent peut-être pas au niveau des restaurants, parce que sur ça on sera allégé. Mais j'ai remarqué que depuis hier, oui, il y a une petite augmentation. Après peut-être que au niveau de la durée, plus tard ça va s'accentuer ou ça va diminuer. Ça, seul l'avenir le dira, mais après c'est jamais fixe. Tout dépend, parce que par exemple les 15 premiers jours les gens ont leur salaire, donc il y a ça aussi qui joue. Il y a plein de facteurs en fait qui rentrent en ligne de compte, mais pour le peu que j'ai vu, oui, là pour le moment ça commence à monter un petit peu en charge.
Les gardiens d'immeubles et les gardiennes d'immeubles travaillent toujours?
Moi, j'en ai vu travailler, oui.
D'accord, ils vous ont dit quelque chose?
Par contre, eux ont des gants, eux ont des masques. Mais après, ça, c'est chaque syndic ou chaque société d'OPHLM qui fait ses directives. Mais quand vous voyez des personnes qui, par exemple, des riverains, je parle en l'occurrence, avant le confinement, avant l'appel au confinement, qui nous disent « Mais pourquoi vous portez pas de masque? Pourquoi vous vous protégez pas ?» Et que vous, la seule solution, la seule chose que vous pouvez leur dire, c'est « Écoutez, on n'en a pas pour le moment. » Et c'est, à la longue, ça fait peur, parce qu'on voit que les gens se confinent chez eux, on voit que les rares personnes qui sortent, sortent avec des masques, on voit que, et nous on n'en a pas. Donc oui, ça fait peur. Et on se dit, voilà, c'est on peut ramener quelque chose à la maison. Et si par malchance on a un enfant qui est malade, qui est asthmatique ou qui a un problème grave ou je sais pas moi, un parent diabétique et qui est à la maison, voilà, ça pardonne pas.
Et oui, et même d'ailleurs pour la garde d'enfants, on sait que les enfants des soignants ont eu des solutions alternatives. Est-ce que vous, la question de vos enfants a été ne serait-ce qu'abordée?
On nous a on nous a transmis le papier du gouvernement pour si on voulait la garde d'enfants. Mais en l'occurrence, non, ça n'a jamais été. Pour autant que je sache, ça n'a jamais été évoqué.
D'accord.
C'est vraiment, on nous a vraiment mis en condition telle que, voilà, il y a une crise qui s'est mise en place, il y a une pandémie qui est là. C'est à vous d'être les acteurs sur le terrain et c'est à vous de ramasser les déchets, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Donc, allez-y. Par contre, on n'a pas de masque, on n'a pas de moyens. Et essayez de faire votre travail, faites votre travail. Voilà, c'est ça, en grosso modo, hein, je vous dis les grosses lignes, mais c'est ça qui a été dit, quoi.
Oui, je vois ça. Ce qui est remarquable dans ce que vous dites, c'est que finalement, il se passe une énorme crise sanitaire, mais vous, votre métier, il continue exactement à fonctionner comme d'habitude, quoi. Comme
c'est
si votre
ça,
métier, déjà,
ça.
De base, il est en crise.
Si, en fait, on nous dit comme si, vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire, et puis c'est tout. Je vous dis, ce matin, il y a eu plusieurs personnes qui auraient voulu faire un droit de retrait, mais qui ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient peur. C'est des intérimaires, ils ont peur de plus être rappelés après en mission, ils ont peur de ne plus avoir de travail. Donc après, c'est, on va dire qu'ils tiennent un petit peu, ça tient un petit peu les gens comme ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir leur droit de retrait, qui aimeraient pouvoir rester chez eux parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ne sont pas tranquilles. Mais après, ils ont peur de plus avoir de travail après ou qu'on ne les rappelle plus. Donc ils préfèrent y aller et advienne que pourra, ils prennent le risque.
Ils sont dans la précarité et on les envoie collecter au nom du service public.
C'est ça. Et je vous dis par exemple le papier qu'on a reçu, la dérogation, c'est juste le tampon de la société. Il n'y a même pas un responsable qui l'a signé. Je veux dire, il n'y a pas de personnel de l'entreprise, de personnes haut placées qui l'a signé. C'est juste un tampon. Ça veut dire que, par exemple, je vous donne l'exemple, moi ou un de mes collègues, il prend le tampon, il le tamponne sur sa feuille, voilà, c'est Veolia. Et c'est ça qui n'est pas normal. C'est qu'il n'y a aucune personne de la société qui a pris ça en charge et qui a dit, voilà, bah, les gars, je vous donne l'aval, je vous donne mon feu vert, vous le faites, voilà, l'État est au courant et on va vous donner vos protections, on va vous donner ce qu'il faut. Non, il n'y a rien qui est fait. C'est ça qui est vraiment flippant là-dedans. C'est que on a l'impression que c'est qu'on avance comme un mouton. On va travailler et voilà, faites ce que vous avez à faire et puis voilà, tant que ça va, tant que les bénéfices rentrent pour la société, voilà quoi. Moi c'est l'impression que ça donne. C'est que voilà, on a l'impression que on est des matricules, on fait ce qu'on a à faire et après on est lesté pour compte quoi. Nous c'est clairement ce qu'on se disait ce matin, on est laissé pour compte par rapport à tout ça.
Vous aviez beaucoup de collègues qui étaient partis aussi pour faire un droit de retrait, vous avez été nombreux?
Ce matin on a été 18, il y en avait un peu plus, mais finalement après ils sont partis travailler.
Ah quand même.
Ouais, ils sont quand même partis travailler parce que la direction a dit qu'ils mettraient à disposition. En fait, ce matin, ils avaient 15 gels et 14 masques.
Pour combien de personnes? Pour 130 salariés.
130 salariés. À savoir qu'il y a deux départs, il y avait deux départs différés aujourd'hui, parce que suivant les communes. Et donc du coup ils ont passé certains masques à certaines personnes pour qu'en condition ils partent travailler, alors que en logique des choses il en faudrait beaucoup plus que 14 ou 15 quoi. Je veux dire, on est 130 salariés, il faut qu'il y en ait pour les 130, c'est pas 15 et voilà quoi. C'est ça qui est déboussolant là-dedans.
Vous avez envie de rajouter quelque chose en particulier?
Ben j'espère que les choses vont s'améliorer pour nous tous et qu'on puisse avoir de meilleures conditions de travail pour pouvoir aider les Français, aider nos compatriotes et surtout ben, pour tous ceux qui sont dans le devoir de travailler et de continuer, ben je leur souhaite force, courage et surtout je suis de tout cœur avec eux.
Then you go into the but I think it'd be better to keep it busy. So we keep you know, keep a thing happening all through. But you can go to it when you can. Ready?
Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, vous écoutez Zoom Écologie présenté par Culture Poub et nous continuons cette émission un peu exceptionnelle puisque nous l'avons enregistrée depuis la maison, depuis notre confinement et nous avons téléphoné à des travailleurs du déchet, ce secteur donc qui était en lutte ces derniers mois et qui aujourd'hui se retrouve eh bien, aux avant-postes du risque sanitaire lié à l'épidémie. Et nous avons donc téléphoné à plusieurs professionnels de ce secteur pour qu'ils nous racontent eh bien, leur exposition et leurs difficultés dans ce contexte.
Salut tout le monde, comment ça va?
Bonjour Eduardo.
Je suis éboueur, ville de Paris. Enfin, moi, je travaille au balai, je n'ai pas de collecte dans l'atelier. On n'a pas de débordement de marché, je fais que du balayage et du lavage de chaussées. Par contre, pour les collègues qui sont en collecte et en débordement de marché, eux continuent à travailler aujourd'hui. Voilà.
Comment ça s'est passé, les collègues, ces derniers jours pour toi, les balayages?
Les balayages, ben, nous, on n'a pas eu, puisque depuis qu'on nous a demandé de rester chez nous, tout simplement. On fait plus, moi, je travaille, je suis placé en autorisation d'absence pour ne pas avoir à travailler dans les rues, de croiser du monde et ainsi de suite. Donc les mesures qui sont pour nous, elles sont très restrictives, elles sont comme pour le reste de la population, ça veut dire on reste confiné au maximum chez nous, quoi. Voilà.
Depuis quand?
Qui sont en collecte d'ordures ménagères et ceux qui vont faire les marchés alimentaires, puisque les marchés alimentaires continuent à fonctionner, ceux qui débarrassent les marchés, eux, ont l'obligation de venir travailler. À mon sens, et de ce que j'ai vu quand j'ai su par rapport à mes collègues avec qui j'ai discuté au téléphone, toutes les mesures de sécurité pour les agents ne sont pas prises, parce qu'on voit des collègues qui sont faits, parce que tu as trois personnes dans une benne dans la cabine du chauffeur qui ne sont absolument pas équipés et qui travaillent normalement comme si de rien n'était. C'est purement scandaleux. Voilà. Que ce soit pour le public ou privé, hein, ça fonctionne exactement de la même manière.
Donc les balayeurs ont été relativement épargnés, vous êtes moins exposés, vous avez pu vous confiner. Par contre, les éboueurs...
Les nécessités de service sont dans la collecte des ordures ménagères et le déblaiement des marchés. Si les ateliers ne font pas ces nécessités de service, ben les ateliers sont tout simplement fermés. Et tout le personnel, les encadrants et les éboueurs, sont placés en autorisation d'absence. Enfin, ce qu'il y a, c'est que les agents ne sont pas confinés, les agents continuent à travailler, les agents ne sont pas équipés des tenues réglementaires des EPI, des équipements de protection individuelle. De ce que j'en ai vu, je suis passé hier, j'étais faire des cours dans mon quartier, il y a un marché, et le marché de Belleville, où est-ce que j'ai vu des agents travailler sans équipement.
Sans masque, sans gants.
Sans masque. Et j'ai discuté avec une collègue qui m'a dit, ouais, mais tu comprends, si je mets un masque, au bout de 2 heures, on n'en peut plus, ça sert à rien. Voilà ce que j'ai entendu. C'est formidable.
Et
ne prennent pas vraiment confiance. Même les agents, ceux qui travaillent, je veux dire, ils sont pourtant informés, mais voilà, quoi, ils ne s'équipent pas, ou peut-être une balle matérielle. C'est bizarre.
Et qu'est-ce que ça change par rapport à la mobilisation de ces derniers temps? Là, j'imagine que du coup, tous les liens militants ont été rompus, ou est-ce que les solidarités se maintiennent par rapport à ce réseau militant qui a été tissé ces derniers mois dans le cadre de la lutte pour les retraites?
Voilà, moi je reste en contact avec les gens que j'ai rencontrés ces derniers mois, et avec qui on essaye de rester mobilisé pour la suite, parce que effectivement, il y a le corona, mais... La vie ne va pas s'arrêter là, une revendication, il faut toujours continuer à les mettre en avant de toute façon. Donc là, je discute avec d'autres personnes, on continue à rester en contact, mais malheureusement, on ne peut pas se voir et pas dire comment on devrait agir. Le discours du président Macron qui suspend la réforme des retraites, et ainsi de suite, il a juste dit qu'il suspendait, il n'a pas dit qu'il retirait. Donc, après cet épisode d'épidémie, il va falloir bien reprendre le combat et on est en train d'essayer de discuter pour pouvoir faire les choses comme on devrait les faire dès qu'on pourra, quoi, tout simplement.
Oui, Macron a annoncé qu'il allait suspendre la réforme des retraites. Il a aussi beaucoup insisté sur la valeur du service public, etc. En parlant des hôpitaux, il n'a pas mentionné les travailleurs des déchets qui sont pourtant... Il me semble très exposé. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ce genre de discours pro-service public, toi qui te bats pour ce service public?
C'est pas la mise en avant du service public par une personne qui a tout fait pour le détruire, ça me fait vraiment rigoler. Si les gens ne sont pas capables de comprendre que c'est un mensonge sur pied, cet homme-là, écoutez, moi j'ai plus rien à dire à ce niveau-là. On sait pertinemment que là, utilisation parce qu'il a besoin des services publics, mais le jour où est-ce que la situation redeviendra normale, il continuera son travail de destruction massive des services publics. Qu'a-t-il fait depuis des années au niveau des hôpitaux? Il a tout fait pour détruire l'hôpital public, et là aujourd'hui il vient dire que ces gens-là sont des héros, c'est se foutre de la gueule du monde.
Et toi, par rapport à la tendance à la privatisation qu'on observe dans le secteur de la collecte et de la propreté, est-ce que tu ressens là un danger dans cette réorganisation du système dans le cadre du confinement?
En fait, nous, la ville de Paris, la régie, continue à travailler, je veux dire, entre guillemets, normalement, puisqu'on remplit toujours dans nos missions. J'ai passé sur des forums de discussion sur Facebook, des pages des boueurs de Paris et autres, que certaines personnes disaient qu'il fallait justement maintenant démontrer notre capacité à servir le public. On nommait aussi la santé des agents dans ce genre de discours. Donc moi, dans l'idée, effectivement, le service public doit continuer, mais il doit continuer pour être efficace et surtout pour protéger les agents qui y travaillent. Là, j'ai pas la tentation que ça soit le cas. Mmh. Notre mission de service public, les gens, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des obligations, des devoirs par rapport à ça. On n'est pas simplement des payants, comme les gens peuvent le penser et le disent. Il y a une mission de service public à faire fonctionner.
Et c'est les agents qui viennent travailler, qui demandent rien, parce qu'à la limite, qui travaillent dans des conditions, quoi. Pour moi, rien ne change, c'est toujours un peu la même chose. Si ce n'est qu'effectivement, les agents qui sont confrontés aujourd'hui à ce problème de corona, et que j'espère pour ceux qui travaillent qu'il n'y aura pas de mort chez nous, tout simplement.
Tu as des amis malades
enfin, partout, quoi. Enfin, les gens qui travaillent ne méritent pas de mourir parce qu'ils sont au travail. Enfin, c'est horrible.
Tu as des collègues qui sont malades ou qui se sont sentis exposés?
J'ai entendu parler de collègues encadrants, notamment, qui sont apparemment. Il y en a un qui a été mis en coma artificiel. Donc, j'ai pas plus de nouvelles par rapport à ça. Aujourd'hui, je dois avoir un collègue au téléphone à fin d'après-midi.
Ok.
Voilà.
Ok. Ok, ben merci beaucoup Eduardo pour ces informations. Je rappelle que Eduardo donc est balayeur à Paris.
Ouais. Merci. Bonne fin de journée, bon courage à tous.
Sous moi, ou rap l'air d'un vrai sang de tri. Y'a plein d'échecs qui ne devraient pas être ici.
Belle matière recyclable souillée. Les employés du centre de tri finissent tout mouillés. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde.
Oh oh.
Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Lâche ton bac.
Mets du respect dans ton bac.
Dans ton bac. Fais attention qu'elle se met. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ça allait aux poubelles. Une fois par semaine, les gars de la ville ont ton bac. À la base, c'était Manhattan qui a inventé le recyclage. Ça l'arrive de partout, ça l'arrive de plein de places. Mélangez donc pas tout, moi je trouve que c'est de dégueulasse. Wesh! Changer des mauvaises habitudes, on dit pas, j'suis pas capable.
Metal vape plastique, carton papier daté. Metal vape plastique, carton papier daté.
Metal vape plastique, carton papier daté. Metal vape plastique, carton papier daté.
Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent tout mouillés. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Mets du respect dans ton bac.
Check ce qu'il y a dans ton bac.
T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Lâche ton bac.
C'est cyclable. C'est cyclable plusieurs fois. Mais c'est pas ce que ça veut dire être recyclable. Oulala. Pointe du doigt, pierre fonçable. Fais ton smat, fais ton frère. Pense trois fois avant de pitcher dans ton bac des jouets.
Oh oh.
Désuet.
Sur moi ou rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein d'échecs qui ne devraient pas être ici. Pleu et flétrie.
C'est non.
Pneu de camion.
C'est non.
Matériaux de camp.
Construction. C'est non.
Les couches qu'elles soient pleines.
Ou non.
C'est non.
Ça pue.
Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent tout mouillés. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde.
Oh oh.
Mets du respect dans ton bac.
Check ce qu'il y a dans ton bac.
T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Lâche ton bac.
Mets du respect dans ton bac.
De retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous venez d'écouter ces professionnels du secteur de la propreté. Il y a eu Dominique, il y a eu Eduardo, et tous les deux nous ont parlé des conditions de travail du secteur de la propreté en ces temps d'épidémie. On a aussi eu des coupures musicales, on a écouté Curse, la crise de la quarantaine, on a écouté À la claire. À la claire ensemble, ça c'est un groupe québécois, c'est un ensemble de rappeurs québécois qui nous chantait une chanson qui incitait à respecter les professionnels du tri et du recyclage, une chanson qui s'appelle « Mets du respect dans ton bac ». Sur ces bonnes paroles, eh ben, je ne sais pas quand je vous dis à bientôt, puisque, comme je vous l'ai dit, la grille de FPP est en ce moment complètement bouleversée, et nous travaillons un petit peu à vue, comme tout le monde, nous naviguons à vue. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons continuer à vous donner des nouvelles de ces métiers qui sont un petit peu oubliés, qui n'ont pas le luxe d'être confinés, et qui, quelque part, se retrouvent aux avant-postes de cette crise, que ce soit par leur profession ou par leurs conditions sociales. À très bientôt donc pour essayer de leur donner voix. On se quitte bien sûr en musique avec Mad Matt qui nous a fait une petite reprise de Georges Brassens qui s'appelle Gare au Covid. Et comme pour l'original, je vous conseille de bien écouter les paroles jusqu'au bout. Au revoir.
C'est au beau milieu de la Chine, dans un endroit de très peu connu, que la petite créature maligne, à l'insu de tous, s'est apparue, transmise par un drôle d'animal, parmi ceux les plus graconnés, pour leur vertu médicinale. Belle revanche pour le concerner, car au Covid. Le patient zéro véritable, on ne le connaîtra jamais, et c'est pour lui fort regrettable, car ce serait une célébrité. En quelques semaines et sans gloriole, il a mis à mal l'économie, cloué la plupart des avions au sol, et Franck Riester dans son lit. Gare au Covid. Malin serait qui peut prédire comment cela va terminer, combien de gens vont en périr, pas de trop il faut espérer, quoique part ne sera que bien mérité, car au Covid. Car le plus dangereux dans cette affaire, ce n'est pas le virus en soi, mais plutôt ceux qui le gèrent et ceux qui président à leur choix. Parce qu'entre sauver des vies humaines et leur économie marchande, c'est habituellement sans gêne qu'ils choisissent les dividendes. Gare au Covid. Si les conséquences n'étaient telles, il y aurait de quoi rigoler, de l'inconséquence que révèle ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui que les bourses paniquent, nos dirigeants semblent découvrir l'importance des services publics qu'hier encore ils voulaient détruire. Gare au Covid. Qu'une si petite créature puisse à ce point tout bouleverser. Quelle belle leçon de dame nature, et ça en dit long sur la société. Face à son incapacité criminelle à gérer de telles situations, la seule chose que cela appelle, c'est une bonne révolution. Car au Covid.